Chapitre 27. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Ce sont ces quelques mots de Paulo Coelho qui reviennent en tête à Johann quand ils entrent dans l'Esquin ce jour-là. Le paysage baigné de la lueur du crépuscule lui inspire des poèmes, des tableaux, des airs de piano. Elle n'a jamais rien vu de si beau. Le paysage s'impose comme une évidence, et elle comprend que ce sera ici, que c'est ici que ce périple devait les mener, depuis ce premier jour, sur l'aire d'autoroute de Roanne.
« Ça va ?» demande Émile.
Elle ne cherche pas à masquer les larmes qui perlent au coin de ses yeux.
« Oui, ça va. »
Il n'a pas encore deviné que ce sera ici, qu'il a atteint sa dernière demeure. Elle se gare sur le bas-côté, lentement, et elle coupe le moteur. Elle veut se laisser le temps de découvrir cette beauté pure. Figée d'émerveillement derrière le volant du camping-car, Johann fait face à l'un des plus beaux cirques naturels des Pyrénées. Un cirque naturel façonné par les glaciers et délimité par des cimes calcaires aux noms légendaires. La table des rois, les aiguilles d'Ansabert, les orgues de Camplon. Elle ignore qu'on appelle l'Esquin Dolomite des Pyrénées, que ce village perché à 1000 mètres d'altitude est la plus haute commune du massif, qu'il fait face au plus majestueux pic des Pyrénées béarnaises. Le pic d'Annie, le Bilard, le Dec de l'Urse, culminant tous à 2000 mètres. Ses yeux balaient ce cirque naturel, ces falaises calcaires d'une blancheur surréaliste qui se découpent contre le ciel comme des dents acérées. Le village est niché au creux de ce cirque presque clos. Pour le moment, elle ignore encore que l'Esquin est une bourgade des plus authentiques, qu'elle a conservé ses toits d'ardoise, ses rues étroites bordées de maisons aux murs épais, des maisons en pierre aux portes en bois et aux petites ouvertures si typiques. Elle ignore encore qu'en prenant la ruelle étroite menant à l'église, elle découvrira avec émerveillement des lavoirs et des abreuvoirs d'époque. Qu'en bordure du village, les sommets et les forêts côtoient des prairies de fauches, des haies, des granges, d'authentiques murets. Au fil des jours, elle découvrira les beaux jardins fleuris qui illuminent au printemps les ruelles étroites. Elle découvrira les fleurs violettes qui couvrent naturellement les talus des petites routes menant aux granges, des œillets, des pulmonaires, des orchidées, rejointes par leurs comparses jaunes, des pavots, des primevères. Elle écoutera dans les cafés du village les éternelles histoires de la bataille de l'Esquin, illustrant la bravoure des Lescunois face à l'armée espagnole. Tout cela, elle l'ignore encore, mais ses larmes face à la beauté du paysage sont un joli présage de tout ce qui l'attend.
Johann ?
La femme leur tend une main énergique. Elle a un visage bruni par le soleil, des cheveux et des yeux d'un noir profond, et un nez franc et droit.
Enchanté, je m'appelle Isadora. Mon père est Pierre-Alain, l'ami d'Hippolyte. Il a bien reçu sa lettre, on vous attendait.
Tout dans son corps respire le dynamisme, son sourire, son ton énergique, le rythme de sa voix, son regard vif, ses grandes mains carrées. Elle doit avoir 35 ans, pas plus.
Et vous, vous devez être Émile ?
Émile semble sorti tout droit d'un livre illustré pour enfants. Deux grands yeux ronds, un air interrogateur et légèrement apeuré qui ferait rire n'importe qui. Il serre pourtant la main tendue en gardant le silence.
Vous avez une caravane ?
Un camping-car ?
La jeune femme se retourne et jette un coup d'œil à leur petit hameau constitué de maisonnettes de bergers. Il se trouve à l'écart du village, au beau milieu d'une plaine.
Il vous faudrait un petit terrain ?
Elle se retourne vers eux en faisant volte-face.
Vous comptez rester ici pour combien de temps ?
Johann danse d'un pied sur l'autre, mal à l'aise.
Est-ce que quelqu'un pourrait faire visiter le hameau à Émile ? On en profiterait pour discuter de ça ?
Elle ne veut pas évoquer la maladie d'Émile et sa mort imminente devant lui. Isadora acquiesce d'un mouvement de tête énergique et porte deux doigts à sa bouche. Un véritable sifflement en jaillit et trois têtes d'hommes se retournent.
Mariko, viens ici, s'il te plaît.
C'est un homme de grande taille qui arrive. Très brun, des yeux d'un noir profond eux aussi. Ses cheveux longs tombent sur ses épaules et il porte un anneau à l'arcade sourcilière.
Je vous présente mon compagnon,
annonce Isadora. L'homme les salue avec chaleur. Isadora ajoute.
Mariko vient du Pérou. Je l'ai rencontrée au cours d'un de mes voyages en Amérique latine.
Elle ne leur laisse pas le temps de répondre. Déjà, elle se retourne vers son compagnon.
Il faudrait faire visiter le hameau à Émile. Tu t'en charges ?
Pas de problème,
répond-il avec son fort accent espagnol. Johan a un peu de peine en voyant Émile s'éloigner avec docilité, ses yeux arrondis d'interrogation silencieuse. Isadora l'entraîne à part dans la ruelle qui borde les maisonnettes de bergers en pierre.
Il a l'air ailleurs, constate-t-elle.
Johan acquiesce.
C'est la drogue ?
Elle est surprise par la question d'Isadora.
Non, un Alzheimer précoce.
Isadora a une grimace en déclarant.
C'est moche.
Elle lui désigne un petit muret de pierre pour l'encourager à s'asseoir. Elles s'y jugent toutes les deux, tandis que le soleil décline totalement sur le petit hameau.
Alors, explique-moi tout. Vous êtes là pour un temps ?
Oui, on est là en attendant.
Isadora plisse les yeux.
En attendant ?
Il n'en a plus pour longtemps.
Ah !
Isadora cherche à lui exprimer sa compassion par un regard appuyé, mais Johan garde les yeux rivés sur les falaises de calcaire.
Il a des soins ?
Non, il a refusé d'être suivi.
D'accord, tu sais combien de temps il a ?
Johan abandonne les falaises blanches pour se tourner enfin vers Isadora.
Les médecins lui ont donné 2 ans en juin dernier, mais les choses s'accélèrent.
Elle enchaîne vite pour ne pas laisser le temps à Isadora de poser d'autres questions.
Il pourra aider à faire 2-3 travaux. Il était assez doué à l'époque. Maintenant, c'est juste qu'il est un peu tête en l'air. Il faudra le surveiller. Moi, je crois que je pourrais aider à la permaculture. J'ai de bonnes notions de jardinage.
Isadora hoche la tête. Fini le regard de compassion, elle a repris son rôle d'intendante du hameau.
Tu n'aurais pas de compétences particulières en matière de yoga ou de tai chi ? On cherche des professeurs ?
Johan lève un sourcil étonné.
Ah oui ?
On est sur le développement humain aussi, pas seulement l'écologie. On monte pas mal d'activités. Mariko, par exemple, initie les jeunes à la capoeira. Il dit que ça leur fait un bien fou, autant au corps qu'à l'esprit.
Johan dodeline de la tête.
Je ne fais pas de yoga ni de tai chi. En revanche,
Elle hésite. Elle n'est pas certaine que son initiation auprès d'Émile ait été si concluante.
Disons que je peux initier ceux qui le souhaitent à la méditation.
Les yeux d'Isadora s'illuminent comme 2 petites hématites.
Ça, c'est génial ! Tu sais quoi ? Je suis certaine que vous n'êtes pas arrivée ici par hasard. Mariko le répète souvent, « Sois attentif aux signes. »
Johan hausse 2 petits sourcils étonnés.
« Ça n'est pas de Mariko, ça ?»
avance-t-elle timidement. Les 2 yeux d'Isadora se mettent à rire franchement cette fois. Elle secoue la tête.
« Non, t'as raison. C'est de Paolo Coelho, n'est-ce pas ?»
Johan murmure en acquiesçant.
« L'alchimiste. »
Elles échangent un regard de connivence. Un regard de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est un signe. Elles l'ont reconnu toutes les 2. La petite cabane est composée d'une pièce principale faisant office de cuisine et de salle à manger. Le sol ainsi que les murs sont encore en pierre brute. Une longue table en bois d'époque accueille les 5 convives. Les chaises sont en hêtre massif avec une assise en paille abîmée. Un poêle à bois ancien dans un coin de la pièce ronronne en diffusant une douce chaleur. Contre le mur du fond, dénué de fenêtres, est apposée une gazinière blanche, un évier en fonte fêlée, un réfrigérateur d'aspect vieillot et une grande armoire en bois devant faire office de garde-manger. Mariko est justement en train de préciser.
« On a voulu conserver un intérieur d'époque volontairement vieillot. Notre cabane fait exception sur le hameau. La plupart des autres sont plutôt modernes. »
Il désigne la gazinière et le réfrigérateur.
Tout notre électroménager a été récupéré dans des dépôts sauvages. On les a remaniés pour respecter les normes écologiques actuelles.
Isadora explique en se tournant vers Johan.
Mariko était dépanneur en électroménager au Pérou. Ça aide.
Autour de la table, sous la lumière blafarde d'une ampoule à nu, 5 personnes partagent un repas de bienvenue. Émile et Joanne ont été invités dans la cabane de Mariko et Isadora en compagnie de Pierre-Alain, père d'Isadora et ami d'Hippolyte. Auparavant, Isadora leur a fait une visite complète du petit éco-hameau et leur a présenté les habitants croisés au détour d'une habitation ou d'un minuscule jardin. Dans ce hameau de 50 habitants, la plupart des résidents sont retraités, comme l'a expliqué Isadora. Ils travaillaient dans le domaine de l'écologie, du paysagisme et de l'agroalimentaire pour la majorité. Le reste des habitants forment un ensemble éclectique. Des actifs, qui partagent leur temps entre leur travail et le hameau, des familles avec enfants, des personnes en incapacité de travailler à cause d'une blessure ou d'un handicap, qui ont décidé d'investir leur temps dans un projet qui fait sens. Les actifs participent à la vie du village les week-ends essentiellement. C'est le cas d'Isadora et de Mariko. Mariko est toujours réparateur en électroménager. Il intervient dans les communes environnantes à bord de son vieux Renault Trafic. Isadora est serveuse à mi-temps dans un des cafés du village, le Café Dolomite. Ils n'ont pas d'enfants pour le moment et ne savent pas s'ils choisiront d'en avoir un jour. Pierre-Alain, lui, est retraité. Il a passé sa vie en tant que berger et a toujours milité pour la protection du patrimoine pastoral de l'Esquin et des Pyrénées en général. C'est lui qui leur parle des cabanes de cet éco-hameau.
Cette plaine où est installé le hameau était un quartier d'estive. Les troupeaux y étaient menés pendant les beaux jours jusqu'au début de l'automne. Dans les quartiers d'estive comme celui-ci, on trouvait toujours toutes sortes de constructions, chacune ayant son usage. Les horis, par exemple, sont des cabanes qui servaient à entreposer le lait, le fromage et les céréales. Ce sont des cabanes de petite taille, orientées au nord pour la fraîcheur. Celle où vous vous trouvez ce soir est une horis. Les cortales servaient soit de bergerie, soit de stockage pour le matériel et le fumier. Elles disposent d'un pilier central et généralement sont couvertes de chaume. Il y en a une dans l'éco-hameau, je vous la montrerai. Elle est habitée par un couple de retraités.
Lorsqu'Isadora l'a menée à travers le hameau tout à l'heure, Joanne a découvert, émerveillée, des cabanes d'époque en pierre sèche, dont les portes restent en permanence ouvertes. Isadora a précisé que les relations étaient basées sur une confiance absolue. De minuscules jardins adossés aux cabanes donnent des poireaux et quelques laitues. Un poulailler abrite une dizaine de poules rousses au cou dodu. À l'écart des habitations, délimitées par une petite clôture en bois, le terrain destiné à accueillir la permaculture. Un bac à compost est déjà installé dans un coin du terrain et une nuée de mouches semble y monter la garde. Isadora lui a montré les buttes de terre enrichies en compost, favorisant la constitution d'un humus riche et stable et le développement des cultures. Elle lui a parlé des spirales à aromates, offrant à chaque plante les meilleures conditions à son développement.
La menthe et la ciboulette, par exemple, apprécient le sol frais et humide. Elles sont plantées en bas de la spirale. Les plantes qui préfèrent la mi-ombre, comme le persil, la bourrache, la coriandre, vont être placées sur les pentes. Et au sommet, on trouvera les plantes qui ont besoin d'un ensoleillement maximal.
Comme le thym, le romarin ou la lavande,
a demandé Joanne. Isadora lui a adressé un sourire de connivence.
Exactement, je vois que t'as tout compris.
Elles sont reparties vers le hameau ensemble, d'un même pas tranquille, tandis qu'Isadora continuait de s'animer, les yeux brillants.
La permaculture va à l'encontre de la culture classique. On ne plante plus en ligne bien droite. On laisse les plantes se développer à leur propre rythme et se mélanger. Dans la nature, la monoculture n'existe pas, vois-tu? Et ces mélanges des plantes entre elles sont d'ailleurs ce qui les protège les unes les autres des maladies et des ravageurs.
Elles sont arrivées au hameau. Émile et Mariko les attendaient devant la petite cabane du couple. Isadora a ajouté précipitamment.
Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent, mais pour conclure sur cette notion de permaculture, il y a trois principes à retenir. Prendre soin de la terre et de toutes ses formes de vie. Prendre soin des personnes et bâtir la communauté. Redistribuer les surplus. C'est là-dessus qu'est basée toute notre communauté.
Autour de la table, Émile reste silencieux. La présence d'inconnus l'intimide. Il n'a pas ouvert la bouche depuis qu'ils sont arrivés au hameau. Avant le repas, Isadora leur a désigné un petit terrain au bout du hameau, à une centaine de mètres du terrain de permaculture où établir leur campement. Le camping-car y est stationné. Demain, Joanne sortira table et chaises, et peut-être ira-t-elle ramasser des pierres pour former une petite allée menant jusqu'à la porte de leur maisonnette.
Quelqu'un veut encore du ragoût ?
Demande Isadora en se levant de table. Tout le monde secoue la tête. Mariko s'est laissé aller contre le dossier de son fauteuil et il a sorti des feuilles à rouler qu'il lisse sur le rebord de la table. Pierre-Alain a posé ses mains nouées sur son ventre. C'est un homme encore vif, très mince, très sec. Des cheveux grisonnants, des sourcils broussailleux qui partent en pointe vers le sommet de son crâne, un nez légèrement crochu. Il respire le dynamisme et une énergie sans fin, comme sa fille. Pendant qu'Isadora se dirige vers la gazinière pour reposer la grande casserole de ragoût, Johan laisse son regard se promener sur l'intérieur de la cabane. Hormis la pièce principale dans laquelle il se trouve, et qui s'apparente à une salle à manger, il ne semble exister qu'une unique autre pièce. Une porte en bois y permet l'accès, à la droite du garde-manger. Johan songe que ce doit être la salle de bain et les toilettes. Isadora a expliqué que toutes les habitations du village étaient équipées de toilettes sèches et que le compost ainsi amassé constituait une aubaine pour la permaculture. Quant à l'eau de la douche, un système de tuyauterie souterraine permet de la récupérer et d'arroser les jardins, ainsi que la permaculture. Pour cela, l'utilisation de produits chimiques était totalement prohibée dans le hameau.
Savon d'Alep 100% naturel et rien d'autre, a expliqué Isadora.
Le regard de Johan continue de se promener dans la pièce. Contre le mur à sa gauche, elle repère une échelle en bois peinte en rouge qui permet de grimper dans un comble minuscule. Un matelas au drap bleu y est visible, ainsi qu'une petite lampe de chevet en céramique posée à même le sol. Ce doit être la chambre à coucher. Elle sursaute quand Isadora s'adresse à elle.
C'est pas très haut, hein ? Heureusement que nous ne sommes pas claustrophobes.
Elle dépose un saladier sur la table. À l'intérieur, de grosses pommes juteuses et quelques noix qui ont survécu à l'hiver. Pierre-Alain sort de son court somme et se redresse sur sa chaise.
« Alors ? » dit-il en se tournant vers Johan. « Dans quel projet avez-vous envie de vous impliquer ?